Bonjour, Ofer Mouchetagne.
Bonjour.
Emmanuel Macron a reçu Benjamin Netanyahou hier soir pour le lancement de la saison culturelle croisée France-Israël, mais c'est un aspect finalement assez anecdotique de leur rencontre, car le Premier ministre israélien est en ce moment dans une tournée européenne destinée à essayer de créer un front commun contre l'Iran. Emmanuel Macron a répété qu'il voulait sauver l'accord sur le nucléaire iranien. Pourquoi, selon vous, l'Iran obsède-t-il tant Benjamin Netanyahou? Est-ce que vraiment il est convaincu que l'Iran est une menace vitale pour Israël? Ou est-ce qu'il s'agit aussi de maintenir une sorte de stratégie de tension?
Vous savez, la politique de M. Netanyahou, c'est la politique de celui qui veut avoir les meilleurs ennemis. Et le meilleur ennemi de Netanyahou, c'est l'Iran aujourd'hui. Je crois qu'il est obsessionnel vis-à-vis de l'Iran pour de bonnes et de mauvaises raisons. Les bonnes raisons, c'est vrai que le langage belliqueux de l'Iran depuis très longtemps vis-à-vis d'Israël est inquiétant, pas nécessaire, c'est de l'huile sur le feu. Les menaces iraniennes sur la destruction d'Israël ne sont pas nécessaires. D'un autre côté, la stratégie de l'Iran dans la région, c'est pas tellement Israël. Quand l'Iran attaque verbalement Israël, c'est pour justement se rallier une partie du monde arabe et musulman sunnite, et pas directement Israël. Quant à l'accord avec l'Iran, il y a un accord qui a été signé en 2015. De grandes entreprises internationales, en particulier françaises et européennes, s'y sont installées, ont déjà investi des sommes considérables. Revenir en arrière, c'est porter préjudice à l'économie européenne, à l'économie française, et c'est aussi revenir à une escalade à la fois verbale, et on l'a déjà vu hier par le président iranien qui dit on va revenir à l'enrichissement de l'uranium, ce qui est absolument...
Augmenter l'enrichissement, oui.
Ce qui est contraire à l'accord signé en 2015. Et ça, c'est pas nécessaire. Par contre, je comprends bien les préoccupations de la communauté internationale, il faut que l'expansion de l'Iran dans la région, et en particulier en Syrie, soit limitée. Et il faut revoir le programme de missiles balistiques iraniens, car il n'est pas nécessaire.
Pourquoi Benjamin Netanyahou veut-il ce front européen contre l'Iran, puisque les États-Unis ont dénoncé donc cet accord sur le nucléaire, ce qui, dans une large mesure, le rend déjà plus ou moins caduque. Et d'ailleurs, Benjamin Netanyahou le sait, puisque lui-même hier soir disait « Je n'ai pas demandé au président Macron de quitter l'accord. Je pense que les réalités économiques vont décider de cette question. » C'est ce que vous évoquiez, la menace des sanctions. On voit par exemple qu'en France, Total se retire et que Peugeot est en train de se retirer. Donc l'accord, il est de fait mort, non?
Non, je ne crois pas. Et là, vraiment, la France et l'Europe et la communauté internationale, n'oublions pas que cet accord n'a pas été signé avec les Américains uniquement. Il a été signé avec les Russes, il a été signé avec les Chinois, il a été signé avec l'Europe, il a été signé avec l'ONU. Et donc, il y a d'autres acteurs dans la région qui ont un intérêt par rapport à cet accord. À la connaissance générale, l'accord qui a été signé en 2015 a été respecté par les parties.
C'est ce qu'on dit l'Agence internationale de l'énergie
de l'énergie nucléaire. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de montrer un peu de muscles de la part des Européens vis-à-vis des Américains. On ne peut pas, l'Europe, les entreprises européennes, l'économie européenne, la politique européenne, ne peut pas être tributaire uniquement des humeurs du président américain. La France, l'Europe ne travaille pas chez les Américains. Et ça, une fois pour toutes, il va falloir le démontrer.
Il y a eu hier soir en France, dans quelques villes, Paris, Lyon, Marseille, Lille, des manifestations contre la réception de Benjamin Netanyahou par le président français. On assiste également en France depuis quelques semaines à une multiplication d'opérations anti-israéliennes dans des magasins, des militants pro-palestiniens qui exigent le retrait des produits venus d'Israël. Pour vous, Emmanuel Macron, devait-il recevoir le Premier ministre israélien compte tenu de ce qui se passe à Gaza, une centaine de Palestiniens tués par des soldats de l'armée israélienne, depuis notamment ce jour où 61 ont été tués lors du transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem.
Le président Macron a été très clair hier. Il a dit que le transfert de l'ambassade par les Américains à Jérusalem a provoqué des morts, a été négatif, n'a pas du tout eu l'objectif qu'il voulait avoir. Et donc dans ce sens-là, il faut être très vigilant. Vous savez, Netanyahou, sa tournée en Europe, elle est faite pour de la politique intérieure. C'est Kissinger qui a dit il y a très longtemps qu'Israël n'avait pas de politique extérieure, uniquement de la politique intérieure. C'est plus pour sa propre population que Netanyahou fait sa tournée en Europe que pour convaincre les Européens qu'il sait, vous l'avez dit, qu'il ne va pas convaincre. Maintenant, quant au boycott de produits israéliens, je suis contre. Je suis contre sur le boycott en général, et la loi française est très claire là-dessus. On ne boycotte ni des pays, ni des organisations. Par contre, la saison croisée franco-israélienne qui a commencé hier, c'est une très bonne chose. Les relations économiques entre Israël et la France sont au beau fixe, au contraire, elles se développent. Il y a une coopération scientifique, culturelle, technologique entre la France et Israël, et l'Europe et Israël, et c'est une bonne chose. Ce que moi je déplore, vous savez, moi je n'accepte pas, en tant que militant pour la paix, l'idée qu'être pro-israélien, c'est être anti-palestinien. Et celle d'être pro-palestinien, c'est être anti-israélien. Moi, je suis pro-israélien et pro-palestinien. Et je pense que ça va de pair. C'est dans l'intérêt des Palestiniens d'avoir de bonnes relations avec Israël. On boycotte des produits israéliens sur certains supermarchés français, mais on les boycotte pas à Ramallah. Il y a une interdépendance économique entre les Israéliens et les Palestiniens. Les Israéliens ne boycottent pas les produits palestiniens, et les Palestiniens ont besoin de l'économie israélienne. Donc il faut remettre les choses à leur place. Par contre, j'aurais voulu voir aussi une saison croisée entre la France et la Palestine. Moi, je déplore, et le président Macron l'avait très bien dit il y a un mois et demi, quand j'ai organisé à l'Elysée une rencontre avec le ministre de l'économie israélienne et son homologue palestinienne à l'Elysée, avec le président Macron. Je déplore que les médias n'en ont pas tellement parlé, parce que c'était une chose positive qu'il faut encourager. Et le président Macron, lors de cette rencontre, a été très clair. Il a dit, les Israéliens viennent me voir en me demandant des choses dont ils veulent. Netanyahou demande à ce qu'on fasse passer l'ambassade française à Jérusalem. Deux semaines après, le président Abbas vient à Paris et demande au président français que la France reconnaisse un État palestinien. Il leur a dit, moi je ferai ce qui est bon pour la France. Par contre, quand vous venez me voir ensemble pour des démarches commune, une coopération commune, une dynamique de coopération, vous serez toujours les bienvenus à l'Élysée. C'est cette route-là que la France doit tracer, c'est cette route-là que l'Europe doit adopter.
Vous dites, Ofer Bornstein, que la majorité des Palestiniens et des Israéliens veulent vivre en bonne intelligence. Mm-hmm. Est-ce que c'est si sûr que ça aujourd'hui ? Pourquoi, si la majorité des Israéliens sont favorables à ce que vous dites, Benjamin Netanyahou est-il si populaire en Israël ?
Vous savez, il y a un paradoxe entre la volonté, le système électoral israélien est compliqué. Ouais. Netanyahou n'a pas été élu par la majorité des Israéliens. Netanyahou a reçu que 25% des voix aux dernières élections israéliennes. Mais le système électoral israélien fait qu'il dépend d'une coalition aujourd'hui. Et malheureusement, 15% de cette coalition est en train de dicter sa volonté sur la majorité des Israéliens. Les derniers sondages en Israël et en Palestine disent encore une fois clairement que les Palestiniens et les Israéliens sont pour la paix, que les Palestiniens et les Israéliens pensent que la solution des deux États est la meilleure pour les deux. Donc c'est la volonté des Israéliens et des Palestiniens qu'il faut faire entendre, et pas uniquement une dynamique politique interne à Israël ou une dynamique politique interne aux Palestiniens. C'est la volonté des peuples qui doit se faire entendre.
Qui peut relancer un processus de paix, parce qu'aujourd'hui, de fait, il n'y en a plus?
Regardez, la position de la France, elle est un peu pas très claire. Ce qu'a dit hier le président Macron, c'est les Américains sont en train de cuisiner un mets au Moyen-Orient, ouais, en faisant passer d'une façon unilatérale et en mettant l'huile sur le feu l'ambassade à Jérusalem, en étant inconditionnellement aux côtés de Netanyahou, en acceptant les pressions de Netanyahou, en abrogeant l'accord avec l'Iran. Ils prétendent depuis des mois qu'ils ont un plan de paix, qu'ils le mettent sur la table, on en parlera. Alors la position de la France peut être que les Américains ont cuisiné quelque chose, on va les laisser le déguster, et pour l'instant le plat est très amer. Ou alors que la France et l'Europe, une fois pour toutes, aient le courage de leurs intentions. C'est-à-dire, il n'est pas normal que le marché européen soit le plus grand marché économique pour Israël, que l'Europe soit le plus grand donateur pour l'économie palestinienne, sans se donner un levier politique.
Merci, Ofer Bornstein. Bonne journée.